France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Monique Fourniret, la femme de l'autre. Au milieu des années 80, Michel Fourniret n'est pas encore le tueur de série que l'on connaît. Non, c'est un simple détenu emprisonné pour différents délits sexuels. Et il se trouve qu'un jour, il poste une petite annonce dans le journal Le Pèlerin, annonce qui dit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Une femme répond, elle s'appelle Monique Olivier. Ils vont s'échanger un peu plus de 200 lettres et se marier à la sortie de prison de Michel Fourniret. 6 mois plus tard, il commet un meurtre, le premier d'une longue série qui fera de lui l'un des pires tueurs en série de l'histoire du pays. Coïncidence ? Non. C'est Monique Olivier qui va jouer le rôle de pousse au crime et légitimer les pulsions criminelles de son mari. C'est elle qui va lui permettre d'aller explorer les moindres recoins de sa cruauté. Alors, les deux scellent un accord, elle lui ramènera des vierges, en échange, il assassinera l'ex-mari de Monique. Tel est le pacte de ces diaboliques. Michel Fourniret, Affaires sensibles, s'est déjà intéressé à lui. Aujourd'hui, intéressons-nous à elle. Notre invitée Michel Fine, journaliste et réalisatrice de la série documentaire intitulée « L'affaire Fourniret dans la tête de Monique Olivier », disponible sur Netflix. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Juliette Proutot, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desmaro, Elisabeth Brichet, Natacha Danet, Céline Saison, Magnana Tumpong. 7 noms, 7 victimes, 7 calvaires pour 2 coupables. 2 accusés qui sont là, ce jeudi 27 mars 2008, dans leur box de verre, devant la cour d'assises des Ardennes, devant des centaines de journalistes et surtout devant les familles des victimes. On se souvient rarement des noms des victimes. C'est l'un des tristes paradoxes des dossiers judiciaires. D'ailleurs, c'est souvent le nom des meurtriers qu'on mémorise et qui donne le titre de telle ou telle affaire. Et ce nom-là, Fourniret, est déjà célèbre. Il inspire, plus que tout autre peut-être, le dégoût, l'indignation, l'horreur. D'autant qu'il y en a 2 pour le prix d'1. Une situation qui résonne sur toutes les ondes, toutes les télés et toutes les pages des journaux pour l'ouverture du procès de Monique et Michel Fourniret.
À la une ce matin, plus qu'un tueur en série, un couple. Le procès des époux Fourniret s'ouvre aujourd'hui à Charleville-Mézières.
Il est soupçonné d'être l'un des pires tueurs en série de ces dernières décennies en France.
La presse britannique suit aussi cette affaire de très près, car Michel Fourniret pourrait être impliqué dans le viol et le meurtre près d'Auxerre d'une jeune Anglaise.
Le tueur en série présumé refuse d'être filmé. Quand il fera son entrée, sa femme, Monique Olivier, ne lui adressera pas un regard.
400 journalistes sont accrédités. Un chapiteau a été dressé devant le palais de justice. Les débats y seront retransmis sur écran géant depuis la salle d'audience.
L'écho médiatique de cette affaire est inédit. La charge émotionnelle véhiculée par ces crimes l'est tout autant. Chez les Fourniret, il y a donc Michel, bien sûr. Celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes, accusé d'avoir, entre autres, enlevé, séquestré, violé et tué cette jeune fille. Vêtu d'une chemise claire et d'un pull bleu, il se tient bien droit au tribunal, dans une posture rigide, hautaine. Sa femme Monique est à ses côtés. Elle a les cheveux gris-blanc, courts, porte une veste fine zippée sur un t-shirt, le tout dans des tons neutres, fades. Contrairement aux yeux bleus perçants de son mari, elle a le regard vide, inexpressif. Dos courbé avec presque l'air de se demander ce qu'elle fait là, elle ne dégage rien. Physique banal, terne. Bon, elle ne ressemble à rien, voilà. Or, le physique de Monique Olivier est important, pas pour une quelconque perspective esthétique évidemment, mais parce que ses traits, ordinaires et transparents, ont eu un impact sur la façon dont les victimes l'ont regardé, la façon dont les policiers l'ont appréhendé au début de l'enquête et la façon dont les jurés l'observent. Pourquoi ? Parce que personne ne s'est méfié de ce visage. Or, derrière ce physique morne, se cache l'une des rares femmes criminelles sexuelles de France et peut-être l'une des pires, accusée d'un meurtre et de complicité dans d'autres drames. On ne sait jamais vraiment à quoi ressemble une criminelle. Mais parce qu'elle ne ressemblait à rien, justement, personne ne pouvait imaginer de quoi elle était responsable. Et qu'on ne s'y trompe pas, le personnage clé de cette affaire, de ce procès, comme de ceux qui vont suivre, ce n'est pas Michel Fourniret, c'est bien sa femme, Monique. Elle est née Monique Olivier à Tours le 31 octobre 1948. Elle a deux frères, et si sa famille n'appartient pas tout à fait à la classe moyenne, elle n'est pas modeste non plus. L'une des difficultés chez les Olivier, c'est d'abord l'absence de communication. Et puis surtout, le peu d'estime et de respect que les hommes de la famille portent à la gente féminine. De son père, elle dit « c'est pas qu'il ne m'aimait pas, juste qu'il était indifférent ». L'attention de cet homme est en effet exclusivement dirigée vers ses fils. En revanche, Monique décrit sa mère comme la gentillesse en personne, douce et généreuse. « Maman avait un bon caractère, et j'en ai hérité », dit-elle. Mais les relations entre mère et fils se dégradent au fur et à mesure que l'alcoolisme de l'adulte s'aggrave. Sans sa mère, la fillette n'est regardée par personne. Et sa situation à l'école n'est pas meilleure, comme l'explique l'expert psychologue Jean-Luc Ployer, qui a rencontré Monique Olivier.
Quand on reprend un petit peu son histoire personnelle, et notamment son intégration scolaire, en quelque sorte, on constate qu'elle a des difficultés à l'école. Tout simplement parce qu'elle est dans un espace d'inhibition, de repli sur elle-même. Vous voyez, elle se faisait un petit peu harceler. Elle n'avait pas du tout confiance en elle. Tout simplement parce qu'elle est allée d'un milieu familial où on l'a totalement écrasée, abandonnée. Donc structure abandonnique, blessée narcissiquement et manifestement très angoissée par rapport à l'apprentissage.
Monique rate son certificat d'études. Son père l'inscrit dans une école de dactylo qu'elle ne termine pas. À 18 ans, elle est embauchée dans une agence immobilière comme dactylo, toujours. Elle est renvoyée au bout d'un an pour incompatibilité d'humeur avec sa seule collègue. Un ancien employé dira de Monique Olivier, elle avait l'air paumée. C'est une pauvre femme qui avait besoin d'une tutelle, incapable de s'assumer. L'ennui et la solitude font partie des termes qui reviennent plus régulièrement pour la décrire. Elle ne semble jamais avoir été active dans ses choix de vie, comme si elle attendait que ça passe. À 22 ans, elle trouve un emploi de sténo dans une auto-école. André Michaud, son patron, deviendra son amant, puis son mari. Ils ont deux enfants dans la foulée. Il a 13 ans de plus qu'elle et se rêve peintre. Alors un jour, il vend l'auto-école pour se consacrer à son art. Son tempérament change alors drastiquement. Il devient violent, possessif. Monique dira qu'il l'a battu. Elle finit par s'enfuir, laissant la garde de ses deux fils à André, dont elle divorce. Via une association de femmes battues dans l'Hérault, elle devient auxiliaire de vie auprès d'une jeune handicapée. Et puis, en seconde noce, elle épouse un Américain, dans l'espoir de partir aux États-Unis. Mais le mariage ne dure que 6 mois. Tout aurait été tellement différent si elle était partie, si elle s'était sentie utile, si elle ne s'était pas retrouvée seule, de nouveau, à 38 ans, avec peu d'envie et aucune perspective. Parce que c'est à ce moment-là que se joue le tournant de sa vie. Un jour de l'année 87, alors qu'elle feuillette le journal chrétien Le Pèlerin, elle tombe sur une petite annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. L'auteur de ces lignes n'est autre que Michel Fourniret. 44 ans, alors emprisonné à Fleury-Mérogis pour plusieurs délits sexuels. Entre eux va se nouer une intense et étrange relation. Ils se reconnaissent, se légitiment réciproquement. En quelques mois, il s'envoie près de 200 lettres, dont le contenu évolue pour prendre une tournure sensuelle, puis sexuelle, et enfin complètement perverse. À mesure que Fourniret dévoile son obsession de malade pour la virginité, un pacte sordide va lier les deux individus. Christian Bidner, chroniqueur judiciaire à France Inter, raconte.
Ce pacte infernal, on le voit se mettre en place au fil de leur correspondance alors que Fourniret purge une peine de 5 ans en 87 pour agression sexuelle déjà. Petit à petit, il lui annonce ce qu'il va faire dès sa sortie. Tuer 3 hommes, enlever des vierges, se procurer de l'argent pour ne plus penser à l'argent, écrit-il, et nous serons Bonnie and Clyde. Elle lui répond sans lui dire jamais non. Elle l'aidera dans sa chasse obsessionnelle aux vierges. Elle l'appelle son cher Khan, son grand fauve, et lui tuera son ex-mari qui la frappait. Et à la garde de ses 2 enfants, c'est écrit noir sur blanc, c'est le pacte.
Peu importe ce que peut lui demander Fourniret, au moins il la regarde, il la voit. Au moins elle n'est plus seule, au moins elle peut être utile. Jusqu'alors, répétons-le, la vie de Monique Olivier n'avait pas de sens. Eh bien, Michel Fourniret va lui en donner un, pour lequel elle se révèle particulièrement enthousiaste et douée. Satisfaire les fantasmes de son mec et accompagner la réalisation de ses pulsions pédocriminelles. En octobre 87, Michel Fourniret est libéré. Monique l'attend devant la prison. Deux mois plus tard, dans Lyon, une jeune collégienne disparaît. C'est le premier crime du couple, l'acte fondateur de la pièce perverse qu'ils joueront pendant presque deux décennies. Le 11 décembre 87, en fin de journée, Isabelle Laville, une adolescente de 17 ans, rentre à pied d'Auxerre jusqu'à son domicile à Saint-Georges-sur-Bourche. Elle est brune, les cheveux longs, raides, parfois attachés avec une barrette sur le côté. 1,5 km la sépare de sa maison. En chemin, une camionnette C15 blanche s'arrête à sa hauteur. La femme qui est au volant a une quarantaine d'années, les cheveux bruns, raides et l'air normal. C'est bien le problème. Alors elle lui explique qu'elle est perdue et lui dit peut-être quelque chose du genre « Excusez-moi, mademoiselle, je suis pas du coin, j'arrive pas à me repérer. Vous pourriez m'aider ?» Et comme la conductrice n'a pas l'air dangereux, même pas bizarre, Isabelle monte dans la C15. Quelques kilomètres plus loin, un homme avec un bidon d'essence à la main fait du stop sur le bas-côté de la route. La femme s'arrête de nouveau et accepte de faire monter l'autostoppeur pour le raccompagner à sa voiture en panne. L'autostoppeur, c'est Michel Fourniret. Et celle qui conduit la camionnette, c'est Monique Olivier. La disparition d'adolescente fait la une du JTTF.
C'est une formidable chaîne de solidarité qui s'est créée à Auxerre autour d'une famille dans l'angoisse. On recherche une jeune fille de 17 ans, Isabelle Laville. À Auxerre, tout le monde s'est mobilisé et c'est le club de football bien connu qui en a été le moteur.
Si des personnes donnent des indices décisifs, ils seront récompensés par des chèques très importants, parce qu'il n'y en aura peut-être pas qu'une, c'est pas un seul indice qui va permettre de la retrouver. Ils seront tous récompensés par des chèques importants et le financement de cette somme sera donné par un match que nous jouerons ici.
Des patrouilles sont organisées dans la ville, ainsi qu'un porte-à-porte autour du collège. Des avis de recherche sont diffusés dans les médias locaux et nationaux, mais en vain. Au bout de 6 semaines, l'affaire est classée, et ce malgré les conclusions de l'enquête qui privilégie pourtant l'hypothèse d'un suicide ou d'un enlèvement à caractère sexuel. Alors, quels sont les faits? Eh bien, après avoir incité l'adolescente à monter dans sa voiture, Monique a sorti une arme, a mis la jeune fille en joue et l'a droguée. Ensuite, Isabelle a été ramenée à Saint-Cyr-des-Colons dans la maison du couple pour y être violée, puis tuée. Et c'est minutieusement qu'elle a été choisie par Fourniret, à cause de sa ressemblance physique avec Monique Olivier, jeune. En vérité, par ce viol, le criminel voulait avoir l'impression de déflorer à nouveau sa compagne. Et tout ça, les enquêteurs l'ignorent, parce que l'affaire a été classée sans suite au bout de 6 semaines, on l'a dit, et que, pendant ce laps de temps bien trop court, personne n'a fait le lien entre l'enlèvement d'Isabelle et l'installation d'un délinquant sexuel tout juste sorti de prison dans la région. Ce premier crime est fondamental. D'abord parce qu'il ancre, qu'il assoit la dynamique criminelle du couple. Si Fourniret n'a pas une grande estime pour sa femme, il n'en a pour personne d'autre que lui d'ailleurs. C'est sa présence à elle qui légitime la mise en œuvre de ses pulsions à lui. Fondamental aussi ce crime, parce qu'il génère un sentiment d'impunité dont les conséquences seront dramatiques. Le 12 avril 1988, moins de 6 mois après l'enlèvement d'Isabelle Laville, Farida Amish, la compagne d'un ancien codétenu de Fourniret, disparaît. L'ancien codétenu, c'est Jean-Pierre Elguarch, un ex-braqueur qui avait demandé à Fourniret d'aider sa femme à déterrer un trésor enterré dans un cimetière. Ce soir-là, Farida se sent confiance. Après tout, Fourniret est accompagné de Monique, qui d'ailleurs est enceinte. Alors Madame Elguarch ne se méfie pas. Elle a tort.
Au printemps 1988, dans le cimetière du Val d'Oise, Michel Fourniret et sa compagne Monique Olivier et Farida Amish, l'épouse d'un ancien co-détenu du tueur en série, déterrent un trésor, 20 kilos de lingots d'or. Ils transfèrent ensuite l'argent ici, au domicile de Farida Amish à Vitry-sur-Seine, comme convenu. Michel Fourniret, avec la complicité de Monique Olivier, attire la jeune femme dans un guet-apens et l'étrangle. Son corps ne sera jamais retrouvé.
Avec l'argent du butin, le couple Fourniret achète un château, le château de Sautou, entre Sedan et Charleville-Mézières, à quelques kilomètres de la frontière belge. Le reste de l'énorme trésor offre une liberté financière que le couple va mettre à profit pendant presque 20 ans pour continuer la chasse. Et les victimes vont s'additionner, comme le résume cet extrait du documentaire Netflix « L'affaire Fourniret » dans la tête de Monique Olivier.
Auxerre, 8 juillet 1988. Marie-Angèle Domez, 18 ans, sort de son foyer. C'est la dernière fois qu'on la voit.
Fabienne Leroy est découverte près de Mourmelon, tuée d'une balle de fusil, le corps à moitié nu.
Natacha Danet, une adolescente de 13 ans, disparue depuis mercredi dans la banlieue de Nantes.
Disparition inquiétante d'une jeune fille à Charleville-Mézières.
On est sans nouvelles d'elle depuis le 18 mars.
Jeanne-Marie Desramont a 22 ans. On est sans nouvelles d'elle depuis le 18 mars.
En effet, 8 mois après la disparition de la jeune Fabienne à Châlons en Champagne, c'est au tour de Jeanne-Marie Desmarot, jeune étudiante de 22 ans, de se volatiliser le 18 mars 1989 près de Charleville-Mézières. Ce jour-là, le couple qui a accueilli son premier seul enfant quelques mois auparavant invite la jeune fille à bavarder au château du Sautou, notamment pour lui proposer de garder le petit. Mais Jeanne-Marie sent que quelque chose cloche quand Michel Fourniret commence à l'interroger sur sa virginité. D'ailleurs, il lui saute dessus. Elle se débat, elle est forte, elle ne se laisse pas faire. Alors, Monique Olivier intervient pour la maintenir au sol, la bâillonner et permettre à son mari d'étouffer la jeune fille. Le couple se marie quelques mois plus tard, en juillet 89. Ils demandent à leur voisin, unique invité de l'événement, d'être leur témoin. La cérémonie dure 20 minutes. 6 mois plus tard, à Saint-Servais, en Belgique, à une centaine de kilomètres de la frontière française, c'est Elisabeth Brichet, 12 ans, qui disparaît. Nous ne sommes plus en France, mais le mode opératoire est le même. Fourniret repère sa proie, sa femme joue lapin. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Elle emmène leur bébé de 15 mois dans la voiture. Or, rien ne ressemble moins à une menace qu'une mère à son enfant. Le 20 décembre 89, vers 19h, Monique Olivier s'arrête à la hauteur d'Elisabeth qui sort de chez une amie et qui rentre chez elle, à moins de 400 mètres de là. Fourniret lui explique que son bébé qui est juste là sur le siège est malade, que c'est une urgence, qu'elle cherche le médecin du quartier. Bon, Elisabeth regarde la femme, qui a l'air d'une maman normale, et puis l'intérieur du véhicule où dort un bébé est plus que rassurant, donc elle monte, comme les autres victimes. Mais Michel Fourniret est à l'arrière. On ne reverra plus l'adolescente. Le couple diabolique n'a pas d'amis. Il vit en vase clos. Quand elle n'accompagne pas son mari violé et assassiné des jeunes filles, Monique Olivier s'éballe les brosses et serpillère, mais en nickel. Et parce que les années passent sans que personne ne l'arrête, le couple intègre complètement ses pulsions perverses dans son quotidien. La criminalité est devenue une normalité, construite sur un sentiment profond de toute puissance. Le mode opératoire a fonctionné jusqu'ici, alors pourquoi changer? Mais c'était sans compter sur la bravoure d'une gamine de 13 ans, qui seule mettra fin à la frénésie criminelle du couple.
Hey! Been trying to meet you! Thank you.
aujourd'hui, Monique Fourniret.
France Inter, affaires sensibles.
Un fait divers sordide en Belgique et c'est une enquête à tiroir qui démarre. Jeudi, ce forestier français expatrié est arrêté chez lui en Belgique, accusé d'avoir enlevé et tenté d'abuser d'une adolescente de 12 ans. La jeune fille qui est parvenue à s'échapper va livrer un précieux récit à la police. L'homme l'a persuadée de monter dans son fourgon, prétextant chercher une adresse. L'agression a été commise en plein jour et par ruse. Ce mode opératoire alerte les enquêteurs belges. Le scénario apparemment très rodé rappelle des hypothèses émises dans deux autres dossiers. La disparition de Céline Saison, retrouvée morte en juillet 2000 dans les Ardennes belges, et celle de Manania Tomfong, 13 ans, dont le corps sera découvert en mars 2002, également dans un bois près de la frontière.
Les autorités françaises ont pris contact et elles vont travailler en coopération avec les autorités belges pour justement pouvoir voir si des indices ne peuvent pas être décelés dans différents dossiers.
L'homme que les enquêteurs belges viennent d'arrêter s'appelle Michel Fourniret. Et s'il est entre les mains de la police, c'est uniquement grâce à la force de caractère de Marie, une jeune adolescente de 13 ans que Fourniret regrettera d'avoir rencontrée. Car le tueur en série a pris confiance. Il estime qu'il n'a plus besoin de sa femme pour jouer les rabatteuses. Les gamines, il veut les kidnapper lui-même. Après tout, c'est lui le chef. Puis, si sa femme y arrive, il y arrivera aussi. C'est donc seul qu'il aborde la jeune fille en ce 26 juin 2003. Marie porte des cheveux crépus en gros chignon, un chapelet autour du poignet et un pendentif mêlant une croix et un cœur. Fourniret lui demande le chemin du Mont-de-la-Salle. Il lui dit qu'il va livrer des choses là-bas. Et il insiste pour qu'elle monte dans sa voiture. « Il n'a pas à avoir peur de moi, je suis père de famille et professeur de dessin. Vas-y, monte !» Mais devant le refus de la petite, il hausse le ton. « C'était pas correct de ne pas faire confiance aux gens. De quoi as-tu peur ?» Marie finit par monter. Le véhicule passe devant le Mont-de-la-Salle et accélère. Mais là encore, il y a quelque chose qui cloche. Alors, Marie se met à prier. Fourniret la fait monter de force à l'arrière de la camionnette, pieds et poings liés. À Marie qui demande « Mais pourquoi faites-vous ça ?» Fourniret répond « Tu dois me donner du plaisir, sinon tu ne rentreras pas. Vous êtes de la bande à Dutroux ? Non, je suis pire. » Et Fourniret reprend la route. Il se sent si puissant, invulnérable. À tel point qu'il n'entend pas Marie retirer les liens de ses chevilles, déchirer avec les dents ceux de ses poignets, pas plus qu'il n'entend la porte coulissante à l'arrière du fourgon s'ouvrir à un stop. Marie descend. Fourniret est arrêté 4 jours plus tard. Et si les enquêteurs suspectent immédiatement d'autres crimes, personne ne se méfie de sa pauvre femme, avec son physique quelconque et son air apeuré. Non. Personne ne se méfie de Monique Olivier. Ce que les voisins confirment lors de ce faux sondage qu'on appelle un micro-trottoir.
Monique Olivier, 55 ans, a rencontré son mari derrière les barreaux par le biais d'une petite annonce parue dans un journal catholique. Ensemble, ils ont eu un fils. Ses anciens amis et voisins se souviennent d'une femme discrète, au teint maladif.
On aurait dit qu'elle avait tous les malheurs, qu'elle avait vécu.
Je pense qu'elle était fort passive quand même.
Elle s'engageait pas dans une conversation, Monique. C'était toujours lui qui répondait pour elle.
Jamais un mot gentil, jamais des mots doux, jamais. C'est pas un couple normal.
Elle vous a confié des choses plus intimes ?
Ben, disons que plus intime, lui, que. Apparemment, Michel n'avait pas plus d'attirance pour elle que ça.
Si Fourniret est immédiatement placé en garde à vue, puis en détention provisoire pour l'enlèvement de Marie, les enquêteurs sont convaincus qu'il y a d'autres victimes. Notamment Céline Saison et Manana Tumpong, dont les corps ont été retrouvés à Charleville et à Sedan, juste de l'autre côté de la frontière, en juillet 2000 et mars 2002. La police belge, qui a encore en tête l'affaire Dutroux, sort alors les grands moyens. Perquisition, géoradar dans le jardin, pelleteuse. Au domicile des Fourniret, on retrouve des menottes à la cave, des vêtements d'enfant, des armes de poing, mais aussi des cordes, du scotch, des baillons, des couteaux, une cagoule, ainsi que des masques inhalateurs et des ampoules d'éther. Tout l'attirail du parfait pédocriminel. Sauf que Fourniret, en détention, ne dit rien. Les semaines puis les mois passent, les interrogations et les interrogatoires se multiplient, mais l'homme pervers et intelligent ne lâche rien. et il n'y a pas de preuve directe reliant le criminel à la petite Céline Saison ou à Magnana Tumpong. Les enquêteurs font face à un mur. Alors ils décident de se tourner vers ce qu'ils considèrent comme le maillon faible du couple, Monique Olivier. Cette femme au visage apathique qui regarde ses chaussures, qui répète en tremblant qu'elle ne sait rien, qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'a rien entendu. C'est sur elle que les policiers vont mettre la pression. Et le travail de sa psychologique des enquêteurs, c'est sur elle qu'il va s'exercer. Elle est donc convoquée plusieurs fois par semaine, pour des dizaines et des dizaines d'interrogatoires, plus d'une centaine en un an. Et puis un jour...
C'est une femme qui tremble et qui se cache. Dans la peur et la discrétion, Monique Olivier a vécu comme cela avec Michel Fourniret. Le 22 juin dernier, elle craque. Son mari est en prison pour tentative d'enlèvement. Lors d'une banale audition, Monique Olivier se libère enfin. Un peu absente, un peu malade, Monique Olivier n'a jamais donné l'image d'une femme épanouie. Elle est restée sous l'emprise d'un homme menaçant. Le dénoncer, c'est aussi le quitter. Pourtant, son nom est à jamais associé à celui d'un tueur en série. Aujourd'hui, elle est à la prison de Namur, dans le même secteur que Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux.
Le 22 juin 2004, en moins de 30 minutes, Monique Olivier avoue non pas un, mais six meurtres. Les enquêteurs sont sous le choc. Ils imaginaient bien d'autres victimes, mais pas autant, et pas un mode opératoire aussi pervers. Fourniret est convoqué dans la foulée. Il confirme les propos de sa femme, dont il dira d'ailleurs « Elle ne triche pas, c'est l'une de ses qualités ». Avec un sens sordide de la mise en scène, il finit par accompagner les policiers aux endroits où il a enterré les corps. Au départ, il assume l'entière responsabilité de ses crimes. Monique n'y était pour rien, je l'ai obligé, menacé, pour qu'elle m'aide. Il minimise le rôle de sa compagne. Le patron, c'était lui, et Monique Olivier n'était rien de plus qu'une femme un peu bête, soumise, laisse-t-il entendre. De toute façon, selon ses propres mots, elle avait le cerveau d'une poule lobotomisée. Il faut dire que l'idée que sa femme ait pu être d'une intelligence égale ou supérieure à lui, lui est insupportable. Il est comme ça, Fourniret, que Monique ait pu, elle aussi, prendre du plaisir dans les enlèvements, les viols et les meurtres, il est incapable de l'imaginer. Alors, il ne dit pas qu'elle a procédé aux toilettes intimes de certaines jeunes filles juste avant les viols, histoire de vérifier notamment la virginité des victimes. Il ne dit pas qu'après les crimes, lui et sa femme rejouaient les viols dans leurs ébats sexuels. Et cela arrange bien Monique Olivier, dont la défense consistera à se positionner systématiquement en tant qu'idiote, victime de son mari. Elle le laisse prendre la lumière et se cache derrière la personnalité mégalomaniaque de Michel Fourniret. Alors c'est peu dire que la surprise est grande quand, à l'occasion du premier procès du couple en 2008, les experts psychologues et psychiatres révèlent que Monique Olivier a un QI bien supérieur à la quasi-totalité de la population. Oui. Comme le confirme l'expert Jean-Luc Ployer au micro de Juliette Proutot.
À partir du moment où nous on l'expertise et on constate qu'elle a un QI quand même très très important, qui correspond à un QI de quelqu'un de surdoué, à peu près 2% de la population française, c'est quand même pas anodin si vous voulez. Bon. Parce que le QI ça demande quand même beaucoup de facultés d'attention, de mobilisation, on chronomètre aussi certaines épreuves si vous voulez, donc elle va très vite. C'est pour ça aussi qu'elle ça pondère pas un petit peu son résultat, au contraire, ça l'augmente en quelque sorte par rapport à un échantillon témoin. Ce sont des éléments et qui vont me permettre en quelque sorte d'organiser un petit peu le diagnostic de sa personnalité, en sachant qu'on ne peut pas être soumise, dépendante, ne pas avoir d'autre choix que de rester avec Fourniret, avec ce potentiel-là. Ça veut simplement dire, sous forme d'hypothèse, que si elle est restée avec Michel Fourniret pendant 20 ans, c'est qu'elle y a trouvé des bénéfices secondaires pour elle.
Au procès de Charleville-Mézières en 2008, Monique Olivier est condamnée pour complicité dans 4 meurtres et un viol en réunion. Elle écope d'une peine plus légère, entre guillemets, que son mari, la prison à perpétuité avec une mesure de sûreté de 28 ans, contre perpétuité incompressible pour Fourniret. Elle sera aussi condamnée 10 ans plus tard avec son mari pour complicité d'assassinat dans l'affaire Farida Hamish. Mais en dépit des dizaines d'interrogatoires, des centaines d'heures d'audience et de nombreuses expertises psychiatriques, sait-on vraiment qui est Monique Olivier? A-t-elle tout dit des crimes de son mari, de son implication, de ses motivations? Depuis que Fourniret est mort, en mai 2021, elle n'est plus que jamais la clé dans plusieurs affaires qui restent inexpliquées. Notamment celle de la disparition de Marie-Angèle Domès en 88, de Johanna Parich en 90 et d'Estelle Mouzin en 2003. Choisira-t-elle de rester dans sa posture de femme soumise, donc victime, ou assumera-t-elle un jour ses responsabilités, sa propre volonté, sa perversité? Cette vérité-là attend toujours.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Monique Fourniret, née Monique Olivier. Et notre invitée, Michèle Fine. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste et réalisatrice de la série documentaire intitulée L'affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier, donc disponible sur Netflix. Si vous voulez la voir ce soir, vous la voyez ce soir. Voilà, c'est disponible. Sur les affaires à venir, et on a terminé le récit de cette façon, Johanna Parich et surtout Estelle Mouzin. Est-ce qu'on peut attendre ou espérer que Monique Olivier dise quelque chose? Est-ce que vous savez ce qu'on en dit du côté de la justice?
Alors, ce que je sais, c'est que pour faire parler Monique Olivier, c'est extrêmement long, extrêmement difficile, faut déployer des stratégies, faut surtout une énorme patience. La juge actuelle, qui est la juge Kéris, avec sa greffière Valérie Duby, qui sont parmi les personnes qui connaissent le mieux Monique Olivier, se sont dit « on va faire comme les Belges, on va être patiente et on va pas lâcher Monique Olivier, on va essayer de la faire parler ». Les Belges, ils ont interrogé Monique Olivier 120 fois avant qu'elle avoue, pendant un an. Une fois tous les trois jours pour lui faire raconter n'importe quoi, 10 fois elle a raconté sa bio, enfin, et donc la juge s'est dit je vais faire la même chose. Elle l'a fait venir, alors pas toutes les semaines parce que c'était plus compliqué, mais tous les mois, parfois tous les jours, et puis elle la sortait du bureau, elle l'amenait sur le terrain, mais Monique Olivier elle disait tout le temps ben je sais pas, il m'a pas dit, c'est lui qui est parti avec le corps, j'en sais rien, avec cette petite voix un peu mielleuse, malingre qu'elle a. Et puis on se rend compte que quand on lui met des éléments sous le nez, parce que les enquêteurs, ils ont travaillé, ils ont trouvé des éléments 30 ans après qui montrent que Michel Fourniret était à Auxerre au moment de l'enlèvement, qui montrent que Michel Fourniret était du côté de Guermantes au moment de l'enlèvement d'Estelle. Quand on lui met ces choses-là sous le nez, ah bah là, elle daigne dire un peu des choses. Donc, quand 15 jours de procès, Monique Olivier dise quelque chose, moi j'y crois assez modérément.
Pourquoi avez-vous choisi de consacrer une série à cette femme? Alors là, une partie de la réponse est dans le récit qu'on vient de donner. C'est simplement intéressant, quoi. Mais au-delà, c'était quoi vos motivations?
Alors, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là, cette formidable idée. C'est une idée qu'on m'a soumise. Et je dois dire qu'au départ, pour avoir travaillé sur l'affaire, ça fait quand même 5 ans, je doutais un peu, parce que c'est très facile de travailler sur Michel Fourniret, et c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur Monique Olivier. Parce que Monique Olivier, elle a un talent, c'est de passer sous les radars. De se faire passer pour quelqu'un qui est inintéressant, d'être tellement difficile à appréhender que finalement on laisse tomber, on s'intéresse à autre chose. Elle a le temps pour elle et elle a ce génie-là. C'est de vraiment passer entre les mailles du filet. Ce qui n'est pas le cas de Fourniret. Fourniret, il se veut le maître du crime, donc il est capable de toutes les outrances, il dit des choses extraordinaires, incroyables. Donc la tendance normale veut qu'on aille vers Michel Fourniret pour aller chercher Monique Olivier dans tout ce fatras, dans ce dossier de 150 tomes, j'ai lu une grosse partie du dossier, pour aller chercher ce qui renseigne Monique Olivier et qui est intéressant, c'est beaucoup plus dur. Et après, quand vous faites la somme de tout, quand vous prenez le rôle de Monique Olivier stricto sensu, dans chaque crime, que ce soit Isabelle Laville, que ce soit Elisabeth Prichet, les crimes les uns après les autres, et que vous les mettez bout à bout, mais vous vous rendez compte que sa responsabilité, elle est écrasante.
Accablante.
Parce que Monique Olivier, c'est la sexualité du couple. C'est la sexualité du couple criminel. Monique Olivier, c'est l'appât. Après la diffusion de la série, j'ai une dame qui m'a contactée via Messenger et qui m'a dit: il faut que je vous raconte quelque chose. Je l'ai vue, moi, cette femme. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens qui peuvent raconter Monique Olivier et qui ont failli se faire enlever par le couple, parce qu'en général, ces gens-là, ils sont morts. Des survivants, il n'y en a pas beaucoup. Et cette dame, elle voulait juste me dire quelque chose, elle ne voulait pas forcément témoigner, elle voulait juste me dire: ce que je veux vous dire, c'est que c'était elle qui insistait pour que je monte dans la voiture. Elle avait 7 ans, elle était petite. Et elle me disait: mais viens, on cherche tel restaurant. Ben, le tel restaurant, vous tournez à droite, il est là, mais viens avec nous, regarde, il y a l'enfant, tu vas pouvoir jouer avec lui. Et la petite, elle n'y est pas allée, elle ne l'a pas senti, mais elle me dit, elle insistait, une fois, deux fois, trois fois, et finalement je suis partie. Mais elle voulait me dire ça, l'importance du rôle de Monique Olivier dans ce couple.
Et c'est pour ça que vous avez accepté ce travail-là, vous avez trouvé ça intéressant justement au regard de l'importance de Monique Olivier dans cette histoire.
Je l'ai trouvé intéressant, et je crois que les gens l'ont trouvé intéressant, parce que autant Fourniret est quelqu'un qui est frais, il est vraiment effrayant, Fourniret, il fait peur. Souvent, c'est un repoussoir. J'avais fait un doc avant, il n'avait pas marché, parce que Fourniret, les gens n'ont pas envie d'y aller, quoi. En France, on n'aime pas ces histoires extraordinaires. En revanche, Monique Olivier, c'est une mère de famille, c'est une femme presque comme les autres, d'apparence presque. C'est la femme qu'on a en nous. On ne peut pas ne pas se dire « Est-ce que j'aurais pu faire ça ?» Comment elle a pu faire ? Il y a toutes ces questions-là. Il y a, dans Monique Olivier, une part de la normalité de ce couple totalement anormal. Monique Olivier, elle ramène vers la normalité. Voilà.
Elle ramène vers la normalité, vraiment ?
En apparence.
Ah oui.
En apparence.
Ouais.
Il y a une chose que dit Corinne Hermann. Les gens qui voient le couple pour la première fois, c'est très intéressant. Corinne Hermann et Didier Sebon, qui sont les avocats de la famille de Jeanne-Marie Desrameaux, sur la reconstitution du meurtre de Jeanne-Marie Desrameaux, ils voient ce couple pour la première fois. On est en 2006, je crois, il fait très froid. Et ils voient arriver un gnome, un petit homme, malingre, tout petit, et une femme Elle est beaucoup plus grande que lui. Lui, il fait 1m68, elle fait 1m72, mais elle est beaucoup plus massive, elle paraît beaucoup, beaucoup plus grande. Et une femme, quand on la voit pour la première fois, on se dit « Ah, c'est peut-être pas lui le chef ». Et il y a plusieurs scènes comme ça, où ils se sont retrouvés dans des reconstitutions, où finalement, elle finit par le faire taire. Et lui se retourne vers les avocats en disant « Ben voilà, vous voyez, finalement ».
Et alors, c'est en contradiction aussi avec le côté « je passe à travers les mailles du filet parce que je rase les murs ». Il y a les deux.
Monique Olivier est une contradiction.
D'accord.
Une contradiction faite femme. Les gens qui la connaissent disent « c'est un caméléon, il n'y a pas une Monique Olivier, il y en a 20 ».
On se retrouve dans 3 minutes. Je suis tout de suite assez fasciné parce que vous me racontez. Et on va continuer dans 3 minutes après avoir écouté Dominique A, « Les vagues et les regrets ».
Vois où la flamboyance se mène et tous les records explosés. On a congédié les sirènes qui va monter dans la fusée. Des traînées blanches dans un ciel qu'on ne pourra pas remplacer. Prenons place dans la nacelle. Regardons passer la fusée. Par en dessous, si on savait combien de vagues et de regrets. Voilà qu'au bord du crépuscule, sorti d'immeubles ou d'entrepôts, des corps agités se bousculent tout autour de tables de jeu. Ils questionnent tous les possibles, les cartes flambent dans leurs yeux. De regarder les autres vivre vous ôte parfois tous les mots. Derrière tout ça, si on savait combien de vagues et de regrets. Des nuées d'intention sommeil, peut-on ne pas les réveiller? Peut-on renoncer à l'envie de défendre une grande idée? Plus haut des planètes s'inquiètent, on y a entendu respirer. Armageddon est en retard, mais il ne devrait pas.
France Inter. Affaires sensibles.
Michel Fignet, une question qu'on peut se poser concernant Monique Olivier, donc Monique Fourniret. Je ne sais pas si vous avez la réponse, parce qu'elle est entre les mains des experts, mais qui vous ont peut-être dit des choses. Est-ce que Monique Olivier adhère aux ambitions criminelles et perverses de son mari, ou est-ce qu'elle avait ça en elle avant ?
Avant de rencontrer Michel Fourniret, Monique Olivier, c'était Madame Tout-le-Monde. C'était quelqu'un de pas très intéressant. Comme dit son avocat, dans une soirée, c'est la femme qu'on remarque jamais, on se rend jamais compte qu'elle est là. C'est quelqu'un qui a l'impression de compter pour personne, qui s'ennuie, qui a jamais vraiment de boulot, qui a jamais de voiture, elle a raté sa vie. Donc elle a vraiment besoin de quelqu'un sur qui elle puisse s'étayer. Elle a besoin d'être étayée, Monique Olivier. Elle a besoin de elle se colle à quelqu'un. Elle a besoin d'être importante pour quelqu'un. Et dans sa vie, elle sera deux fois importante pour quelqu'un. La première fois, c'est avec Michel Fourniret, parce qu'elle va lui permettre de commettre ses crimes, d'accomplir sa recherche de la virginité et d'aller au bout. Et la deuxième fois, quand on va lui demander d'aider aux recherches pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Mais la question qui est intéressante, c'est la question inverse. C'est pas...
Désolé.
Si je peux me permettre.
Allez-y.
Si je peux me permettre.
Il n'y a pas de problème.
Non, mais est-ce que Fourniret aurait été Fourniret sans Monique Olivier ? Ouais. C'est ça la question.
J'allais vous la poser comme ça après.
Voilà.
Non, c'est pas vrai.
Eh ben non. Là, non. Parce que quand on étudie la première partie de la vie de Michel Fourniret, Michel Fourniret, il a une obsession, c'est la virginité. Il veut trouver des vierges. Voilà. Et il essaie 15 fois d'en faire monter dans la voiture et il n'y arrive pas. Des fois, il se fait griffer. Des fois, il raccompagne les femmes. Il essaie de les violer. Enfin, c'est un pauvre violeur pitoyable. Et quand il est arrêté, il se dit premièrement, ben, je ne vais pas laisser les victimes vivantes parce que sinon je vais me refaire arrêter. Et deuxièmement, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à mettre ces femmes en confiance et à les faire monter dans la voiture. Et donc, cette personne, cette espèce de complice, il n'y en avait peut-être qu'une au monde, ça a été Monique Olivier. Ils le disent très bien dans les lettres tous les deux. Elle dit, mais comment... On est quand même deux êtres étranges, dit-elle. C'est quand même étonnant qu'on se soit rencontrés.
Ouais.
C'est étonnant que Michel Fourniret ait rencontré comme ça une complice parfaite pour lui.
Alors, elle a été incarcérée quelques mois avec Michel Martin, donc la femme de Marc Dutroux. Et Monique Olivier a dit à un psychiatre, je suis mieux qu'elle. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça?
Ça m'évoque que Monique Olivier, on dirait qu'elle n'a pas de cadre, on dirait qu'elle n'a pas de filtre, on dirait que parfois elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. On ne lui demande rien hein, quand elle dit « je suis mieux qu'elle ». Elle en parle beaucoup dans les auditions de Michel Martin. Pourquoi dit-elle ça?
Elle a un côté supérieur, peut-être un peu.
Ça n'a pas été détecté par les psychiatres, peut-être, mais ça n'a pas été détecté. Elle est quand même très, très étonnante. Mais il y a, en filigrane de ce couple, le couple Dutroux est là, quand même. Quand elle avoue, en 2004, les policiers belges ont posé sur le bureau, avant de la faire avouer, la une du journal local qui dit « Marc Dutroux et Michel Martin, condamnés à 30 ans ». En se disant, peut-être, elle va se dire, si je parle, j'aurai une condamnation moindre. Il y a toujours, quand il se fait arrêter, Michel Fourniret, il dit, je suis pire que Dutroux. L'avant-dernière victime, qui est Manania Tumpong, moi, j'en peux pas m'enlever ça de l'esprit, il va déposer son cadavre au pied du jardin du procureur qui s'occupait de l'affaire Dutroux. Ouais. C'est peut-être
c'est
un hasard.
C'est pas innocent.
C'est peut-être pas un hasard, exactement. Ah.
Et alors justement, cette région des Ardennes, frontalière de la Belgique, du trou d'un côté, Fourniret de l'autre, est-ce que ça a marqué la région? Vous y êtes allé? Est-ce que les gens sont marqués par ça? Ils se disent, mais nous sommes la terre de... Alors il y a eu les Vosges aussi avec le petit Grégory, mais là c'est vraiment d'un côté comme de l'autre de la frontière, c'est une terre de malheur, comme ça, qui ne correspond pas à la réalité, j'imagine. Mais
non, parce que c'est une belle région.
Bien sûr, donc ça ne correspond pas à la réalité, mais c'est quand même une réalité judiciaire. Ça a marqué la région, les gens.
Alors, Dutroux, c'est la Belgique. On n'est pas exactement dans les Ardennes. On n'est pas très très loin. Fourniret, c'est les Ardennes. Et il a ce génie criminel-là pour brouiller les pistes, de passer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'il va enlever en France, il va déposer les corps en Belgique. Un coup, il vit en France, un coup, il vit en Belgique. Et il arrive à brouiller les pistes comme ça. Les gens, quand vous leur en parlez dans les Ardennes, ils n'ont plus très envie d'en entendre parler. Ils en ont un peu ras-le-bol de cette affaire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y aurait peut-être pas eu Fourniret s'il n'y avait pas eu Dutroux. C'est-à-dire que Dutroux, ça a été un scandale en Belgique. Les gendarmes étaient passés à côté de la cage de Dutroux. Ils auraient pu libérer deux petites filles. Ils ne les ont pas entendues. Quand Dutroux a été arrêté, tout ça a été mis à jour. La gendarmerie a disparu. Elle a été fondue dans la police. Il y a eu une grande, grande réforme. Donc, il y avait un traumatisme énorme de la justice et des services de police. Et là-dessus, des petites filles disparaissent. On retrouve leur cadavre et il y a ce type, Michel Fourniret, qu'on arrête alors qu'il vient d'enlever une fillette. Et on se dit, et les gens se disent, il y a un autre prédateur dans la région et le cauchemar recommence.
Eh oui.
Il n'aurait peut-être pas mis ces moyens-là, peut-être pas, s'il n'y avait pas eu l'affaire Dutroux avant. Et Michel Fourniret n'aurait pas été arrêté s'il n'avait pas été arrêté en Belgique. Parce qu'en Belgique, les enquêteurs peuvent entendre et réentendre, ils peuvent entendre 120 fois. Chez nous, ils peuvent entendre pendant 48 heures et après c'est fini. Oui.
Ils ont divorcé, les deux, là ?
Ils ont divorcé après le procès.
Après le procès, on sait pourquoi. Parce que, embarqué, peut-être que l'un reprochait à l'autre son comportement pendant aux assises, non ? Peut-être, enfin, je ne sais pas.
Bah, ils se sont reprochés plein de choses. Elle a dit des choses que lui ne voulait pas qu'elle dise. En particulier, la créature lui a un petit peu échappé, quand même.
Ouais.
On dit qu'il a un QI de 120, on dit qu'elle a un QI de 131. Il était furax de savoir qu'il était moins intelligent qu'elle. La créature y a échappé. Elle a dit des choses qu'il ne voulait pas entendre. Par exemple, elle a parlé d'une meurtre d'une jeune fille au père. Il a toujours soutenu que non, il n'avait pas tué la jeune fille au père. Elle a dit qu'il a pratiqué des attouchements post-mortem sur Jeanne-Marie Desrameaux. Lui ne veut pas en entendre parler. Donc ça l'a mis dans des états de rage phénoménaux. Un jour, il s'est mis en rage. Il a avalé un papier qu'il avait écrit pour donner des renseignements. Les inspecteurs lui ont sauté dessus, ont enlevé le papier de sa bouche. Enfin, il se mettait dans des états de rage à cause de Monique Olivier. Donc au procès, il ne se parlait plus.
Ah oui, d'accord.
Chacun était de son côté. Lui avait décidé qu'il ne parlait pas, donc toutes les questions étaient posées à elle. Donc elle a très mal supporté le procès. Mais après, quand on les a remis en 2018, quand on les a remis en confrontation, quand on les a remis, ramenés sur le terrain dans l'affaire Estelle Mouzin, petit à petit, ils ne se parlaient plus. Chacun regardait l'un à droite, l'autre à gauche. Et après, ils ont recommencé à se parler. Le couple s'est reformé. C'est ça qui est étonnant.
Qu'est-ce qui change après quand Fourniret meurt ? Qu'est-ce qui change pour Monique Olivier ?
Ce qui change pour Monique Olivier, c'est que jusque-là, elle disait, notamment ce qui concernait Estelle Mouzin, notamment ce qui concerne Marie-Angèle Domès, il reste quatre corps dans ces affaires-là qu'on n'a pas retrouvés, dont ces deux-là. Et à chaque fois qu'on demande à Monique Olivier où sont les corps, elle dit de toute façon, ce n'est pas moi qui les ai enterrés, donc c'est à lui de vous le dire. Et maintenant qu'il est mort, elle est obligée de le dire.
Ah oui.
Donc elle dit qu'elle ne sait pas.
Bon, c'est pas très...
Sauf que quand on lui met des petits éléments sous le nez, ce qu'elle ne savait pas la veille, finalement elle le sait. Elle avance.
Donc va falloir que la police et la gendarmerie enquêtent au-delà du simple espoir d'avoir des informations par Monique Olivier maintenant.
Ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
Oui, bien sûr.
Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On a perdu 15 ans dans certaines enquêtes, 20 ans dans d'autres enquêtes, parce qu'on n'a pas travaillé sur ces dossiers.
Dans votre documentaire, il y a un personnage, si j'ose dire. C'est la forêt des Ardennes. La forêt, une place importante. Pourquoi ? C'est quoi la symbolique et la réalité, finalement ? Les deux se rejoignent.
C'est une forêt très grande, très sombre. Moi, un des moments les plus flippants de ma carrière, c'est quand je suis allée pour la première fois au château du Soutou. Il y a une allée de 1 km avec le château au fond de l'allée, et à droite et à gauche, une forêt immense avec des grands sapins, très sombre, très effrayant, et des bruits de corbeaux. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie.
Ah, c'est assez âpre, le décor. Merci infiniment, Michel Fine. Merci pour tous ces détails. Alors vraiment, j'appelle les auditeurs à regarder cette série documentaire donc sur Netflix. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Monique Olivier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Ficheux.